Le joueur, chapitre 12. La babouchka semblait très excitée. Tout ce qui ne concernait pas la roulette lui était indifférent. À la gare, on l'attendait déjà, comme une victime. Et en effet, les craintes des nôtres se réalisèrent. La babouchka s'attaqua de nouveau au zéro. Tout de suite, 12 louis. Une fois, deux fois, trois fois, le zéro ne sortait pas. « Mais !» me commandait-elle. J'obéissais. « Combien de mises déjà ?» me demanda-t-elle en grinçant des dents d'impatience. « 12 déjà. Cela fait 144 louis. Je vous répète, babouchka, que peut-être jusqu'au soir... »«
Tais-toi !
Ponte sur le zéro et mets en même temps 1000 florins sur la rouge. » La rouge sortit, mais le zéro ne vint pas.
Tu vois, nous avons presque tout regagné. Encore sur le zéro. Encore 10 fois, et puis nous l'abandonnerons. »
Mais, à la 5e fois, la babouchka se découragea.
« Envoie le zéro au diable, et mets 4000 florins sur la rouge. »«
Babouchka,
c'est trop !»
Je faillis être battue. Je mis 4000 florins sur le rouge. La roue tourna. La babouchka ne semblait pas douter du succès.
« Zéro !»
appela le croupier. D'abord, la babouchka ne comprit pas. Mais quand elle vit le croupier ramasser les 4000 florins avec toutes les mises et que le zéro sortait juste au moment où elle l'abandonnait, elle fit
« Ah !»
et frappa ses mains l'une dans l'autre. On rit autour d'elle.
« Mon Dieu ! » cria-t-elle. « C'est justement maintenant qu'il sort. C'est ta faute !»
me dit-elle.
« C'est toi qui m'as conseillé d'abandonner le zéro. »«
Mais, babouchka, je vous ai dit ce qui est vrai. Puis-je répondre des hasards ?»«
Va-t'en »
cria-t-elle avec colère. « Adieu, babouchka. » Je fis mine de m'en aller.
« Alexis Ivanovitch, reste ! Où vas-tu ?
Voilà qu'il se fâche, l'imbécile. Reste, ne te fâche pas. C'est moi qui ai tort. Dis-moi ce qu'il faut faire. »
« Je ne vous conseille plus, babouchka. Vous m'accuseriez encore si vous perdiez. Jouez seul. Ordonnez, je ferai ce que vous voudrez. »
« Allons, mets encore 4000 florins sur le rouge. Tiens. » Elle me tendit son portefeuille. « J'ai là 20 000 roubles. »«
Babouchka,
je veux regagner mon argent. Ponte !» J'obéis, nous perdîmes.
« Mais-en 8 000 !»
« Cela ne se peut pas, babouchka. La plus grosse mise est de 4 000. »«
Va donc pour 4. »
Cette fois, nous gagnâmes. Elle reprit courage.
« Tu vois, encore 4 000. »
J'obéis, nous perdîmes. Puis encore, et puis encore.
« Babouchka, tous les 12 sont partis. »«
Je vois bien, » dit-elle avec une sorte de rage tranquille. « Je vois bien, mon petit père, je vois bien. Mais encore 4000 florins. »«
Mais il n'y a plus d'argent, babouchka. Il n'y a plus que des obligations et des chèques dans le portefeuille. »«
Et dans la bourse ? » ?»«
Il n'y a que de la money-monnaie. » »«
Y a-t-il ici des changeurs ? On m'a dit qu'on peut escompter ici toute espèce de papier. »
« Autant que vous voudrez, mais vous perdrez à l'escompte des sommes énormes. »
« Bêtise, je regagnerai tout ce que j'ai perdu. Roule-moi vers eux. Qu'on appelle ces imbéciles. »
Les porteurs vinrent.
« Vite !» commanda-t-elle. « Montre la route, Alexis Ivanovitch. Est-ce loin ?»«
À 2 pas, babouchka. »
À 1 coude d'une allée, nous rencontrâmes tous les nôtres. Le général, De Grillet et Mademoiselle Blanche avec sa mère. Paulina Alexandrovna et M. Ashley seuls manquaient.
« Allons, ne t'arrête pas !» criait la babouchka.
« Que veulent-ils ? Je n'ai pas le temps de m'occuper d'eux. » Je la suivais derrière son fauteuil. De Grillet courut à moi.
« Elle a perdu tout son gain, et 12 000 florins en plus. Nous roulons maintenant pour aller changer les obligations. »
lui dis-je à voix basse.
De Griers frappa du pied avec rage et se précipita vers le général. Nous continuâmes notre route.
« Arrêtez ! Arrêtez !» me criait le général hors de lui.
« Essayez donc !» lui répondis-je.
« Ma tante !» dit le général. « Ma tante ! Tout à l'heure !»
Sa voix tremblait.
« Nous allons louer des chevaux pour faire une promenade hors de la ville. Une vue splendide, le Schlagenberg. Nous venions vous chercher. »«
Que le diable t'emporte avec ton Schlagenberg !»
dit la babouchka avec fureur. « C'est la campagne, tout à fait, nous y boirons du thé !» ajouta encore le général, absolument désespéré.
« Nous y boirons du lait sur l'herbe fraîche !» renchérit De Griers, avec une colère concentrée de bête fauve.
« Du lait, de l'herbe fraîche, n'est-ce pas l'idylle idéale des bourgeois de Paris ? C'est pour eux le seul aspect de la nature véritable. »
« Va-t'en donc avec ton lait, mettant jusqu'aux yeux. Moi, j'en ai déjà trop. Et puis, que voulez-vous de moi ? Je vous dis que je n'ai pas le temps. »
« Nous sommes arrivés, babouchka, lui dis-je. C'est ici. » Nous arrivions à la banque. J'entrai pour faire l'escompte. La babouchka resta à la porte avec le général, De Griers et Blanche, qui ne savaient quelle contenance prendre. Enfin, ils reprirent le chemin de la roulette. On me proposa des conditions d'escompte si terribles que je ne pus prendre sur moi de les accepter. Je revins à la babouchka.
« Ah, les brigands » cria-t-elle.
« Eh bien, tant pis, change !»«
Non, appelle ici le banquier. »«
Un employé, babouchka ?»«
Soit, ah, les brigands !»
L'employé consentit à sortir quand il sut que c'était une vieille comtesse impotente qui le demandait. La babouchka lui fit de longs reproches, le traita de voleur, essaya de marchander avec lui en lui parlant une étrange langue composée de mots russes, allemands et français. L'employé, très grave, nous examinait tous deux en hochant silencieusement la tête, sans cacher assez sa curiosité. Il en était impoli. Enfin, il sourit.
« Eh bien, va-t'en !» cria la babouchka.
« Change, Alexis Ivanovitch !»
Je changeai 12 000 florins. Je portai le compte à la babouchka.
« Bien, bien, nous n'avons pas le temps de compter. Allons, vite ! Plus jamais, ni sur le zéro, ni sur le rouge !»
Cette fois, je tâchai de modérer ses mises, en lui persuadant que nous serions toujours à temps pour hasarder davantage quand la chance aurait tourné. Mais elle était si impatiente qu'on ne pouvait la retenir. Dès qu'elle gagnait une douzaine de louis, elle disait
« Tu vois, ça revient pour nous. Si nous avions mis 4 000 florins au lieu de 12 louis, nous aurions gagné 4 autres 1 000 florins. C'est toujours toi !»
Tout à coup, De Griers se rapprocha. Je remarquai, en me retournant, que Mademoiselle Blanche, à l'écart avec sa mère, faisait la cour au petit prince. Il était clair que le général était en disgrâce. Blanche ne le regardait même pas. Il pâlissait, rougissait, tremblait, ne suivait même plus le jeu de la babouchka. Enfin, Blanche et le petit prince sortirent. Le général les suivit.
« Madame, madame !» dit d'une voix doucereuse De Griers. « Babouchka, madame, on ne joue pas ainsi, vraiment !»«
Et comment, alors ? Apprends-moi à jouer !»
De Griers se mit à lui donner des conseils, à calculer les chances. La babouchka n'y comprenait rien. Enfin, il prit un crayon et se mit à écrire des combinaisons. La babouchka perdit patience.
« Va-t'en, tu dis des bêtises. Madame, madame, et quand il faut agir, alors il ne sait plus le conseiller. Va-t'en. »
« Mais madame !»
Et il recommença ses explications.
« Eh bien, mais donc une fois comme il dit !» m'ordonna-t-elle. « Nous allons voir. »
De Griers voulait seulement la détourner de jouer trop gros jeu. Il conseillait de jouer à la fois sur un chiffre à part et sur un système de chiffres. Je misais suivant ses conseils.
un louis sur chaque série de nombres impairs dans la première douzaine et 5 louis sur le groupe de nombres de 12 à 18 et de 18 à 24. En tout, 16 louis. « Zéro !» cria le croupier. « Nous perdions tout. »«
Quel imbécile !» s'écria la babouchka. « Ah, le vilain français ! Va-t'en ! Va-t'en ! Il n'y comprend rien et il se mêle de conseiller. »
De Griller, très vexé, leva les épaules, regarda la babouchka avec mépris et s'éloigna. En une heure, nous avions perdu les 12 000 florins.
« Rentrons !» cria la babouchka.
Elle ne dit pas un mot jusqu'à l'allée qui conduisait à l'hôtel. Là, elle s'écria tout à coup
« Vieille sotte !»
À peine entrée, elle cria
« Du thé et préparez tout, nous partons !»«
Où daignez-vous aller, ma petite mère ?» demanda Marfa.
« Est-ce que ça te regarde ? Potapitch, fais les mâles, nous retournons à Moscou. J'ai perdu 4 000 roubles. »«
15 000 roubles, ma petite mère. »
« Allons, imbécile, as-tu fini de pleurnicher ? Vite, la note, et en route. »
« Le premier train ne part qu'à 9h30, babouchka, » lui dis-je pour calmer un peu son ardeur.
« Et quelle heure est-il ?
7h30.
Oh, quel ennui ! Tant pis. Alexis Ivanovitch, je n'ai pas un copec. Va me changer encore 2 obligations. Autrement, je n'aurai pas de quoi partir. »
Une demi-heure après, ma commission faite, je trouvai tous les nôtres, à l'exception de Paulina, chez la babouchka. La nouvelle de son départ les consternait plus encore que ses pertes. Il est vrai que son départ sauvait sa fortune, mais qu'allait devenir le général ? Qui paierait de Griller ? Mademoiselle Blanche attendrait-elle la mort de la babouchka ? N'allait-elle pas partir avec le petit prince ou quelque autre ? Tout le monde s'efforçait donc de retenir la vieille dame. Mais elle criait à pleine voix
« Fichez-moi la paix, tas de diables, ça ne vous regarde pas. Et que me veulent ces 4 poils de bouc ?»
Elle montrait de Griller.
« Et toi, bel oiseau, que me veux-tu ? »
Elle parlait à Mademoiselle Blanche.
« Diantre !»
murmura Mademoiselle Blanche, dont les yeux étincelaient de colère. Puis elle éclata de rire et sortit en criant au général
« Elle vivra 100 ans !»«
Ah, c'est sur ma mort que tu comptais !» dit la babouchka au général.
« Va-t'en !»«
Alexis Ivanovitch, mêlez tous à la porte !»«
Mais de quoi vous mêlez-vous ? C'est mon argent à moi que j'ai perdu !»
Le général haussa les épaules et sortit. De Griller le suivit.
« Qu'on appelle Praskovia ?»
commanda la babouchka à Marfa. 5 minutes après, Marfa revint avec Paulina, qui était restée dans sa chambre avec les enfants. Son visage était triste et soucieux.
« Praskovia, est-il vrai que cet imbécile, ton beau-père, veut épouser cette sotte petite française, une actrice ou peut-être pis encore ? Hein ?
Je ne sais pas, babouchka, mais on peut croire...
« Assez !»
interrompit énergiquement la babouchka.
« Je comprends tout. Ça a toujours été le plus futile, le plus vide des hommes. Il se targue de son grade, et moi, je sais l'histoire des télégrammes envoyés à Moscou. La vieille va-t-elle bientôt mourir ? On attendait l'héritage. Sans argent, cette ignoble fille, celle de Comminges, n'est-ce pas ? N'en voudrait pas même pour valet de ce fameux général avec ses fausses dents. Et elle est riche elle-même, dit-on, elle prête sur gage. Elle a dû l'acquérir proprement, cet argent. Toi, Praskovia, je ne t'accuse de rien. Je ne veux pas réveiller de vieux griefs. Tu as mauvais caractère, tu es un vrai temps, et tes piqûres sont mauvaises. Mais je te plains quand même, car j'aimais ta mère, Katia. « Veux-tu les laisser tous et venir avec moi ? Tu ne sais où aller, et d'ailleurs, il n'est pas convenable que tu restes avec eux dans ces conditions. »«
Tais-toi !» continua la babouchka en imposant silence à Paulina qui voulait répondre.
« Je n'ai pas fini. Je ne te demande rien. J'ai un palais à Moscou, tu le sais. je t'offre un étage entier. Tu resteras dans ton appartement sans même me voir, si ça te plaît. Veux-tu, oui ou non ?
Permettez-moi d'abord de vous demander si vous êtes irrévocablement décidé à partir tout de suite.
Ai-je donc l'air de plaisanter, ma petite mère ?
Je l'ai dit et je le ferai. J'ai été nettoyée aujourd'hui de 15 000 roubles à votre roulette 1000 fois maudite. Dans mon district, j'ai promis depuis longtemps de faire construire en pierre une église de planches. Et je me suis laissé souffler ici la somme que je destinais à cela. Eh bien, je ferai quand même mon église.
Et les eaux, Babouchka ? Vous êtes venu ici pour suivre un traitement ?
Et va donc avec tes eaux, ne me mets pas en colère, Praskovia. Je crois que tu as pris à tâche de mériter. Viens-tu avec moi, oui ou non ?
Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Babouchka, pour l'asile que vous m'offrez. Vous avez compris ma situation, je vous en suis reconnaissante. J'irai chez vous, et bientôt peut-être, mais maintenant, pour des motifs importants, je ne puis me décider tout de suite. Si vous restiez encore une quinzaine...
Cela veut dire que tu refuses ?
Cela veut dire que je ne peux pas. Puis-je laisser ici mon frère et ma sœur ? Et comme il se peut qu'on les abandonne, alors si vous me preniez moi et les enfants, Babouchka, j'irai certainement avec vous, et je tâcherai de mériter vos bontés, ajouta-t-elle avec chaleur. Mais sans les enfants, je ne puis accepter.
C'est bien, ne pleure pas.
Paulina ne semblait pas avoir l'intention de pleurer, et de fait, elle ne pleurait jamais.
Je trouverai de la place aussi pour les poussins. Ma maison est assez grande. D'ailleurs, il est temps de les envoyer à l'école.
Alors, tu ne viens pas tout de suite ?
Prends garde, Praskovia, je te veux du bien, et je n'ignore pas pourquoi tu restes. Je sais tout, Praskovia. Le petit français ne te conduira pas au bien.
Paulina prit feu, je tressaillis.
Tous sont au courant, excepté moi, pensai-je.
« Allons, ne te fâche pas, je ne veux pas appuyer là-dessus. Seulement, prends garde, tu comprends ? Tu es intelligente, ce serait dommage. Et assez, je voudrais n'avoir vu personne d'entre vous. Va-t'en, adieu. »«
Je voudrais vous accompagner, Babouchka, » dit Paulina.
« C'est inutile, vous m'ennuyez tous à la fin. »
Paulina baisa la main de la Babouchka, mais celle-ci retira vivement sa main et embrassa Paulina sur la joue. En passant auprès de moi, Paulina me jeta un coup d'œil rapide et se détourna aussitôt.
« Eh bien, adieu toi aussi, Alexis Ivanovitch. Je pars dans une heure. Tu dois être là de rester toujours avec moi. Prends donc ces 50 louis. »«
Merci, Babouchka, mais...
Allons, allons !»
Sa voix était si sévère, si énergique, que je n'osais refuser.
Quand tu seras à Moscou, si tu cherches une place, viens chez moi. Et maintenant, fiche-moi le camp.
Je montai dans ma chambre et m'étendis sur mon lit. Je restai une demi-heure sur le dos, les mains croisées derrière la tête. La catastrophe avait éclaté. Il y avait de quoi réfléchir. Je résolus de parler dès le lendemain, avec décision, à Paulina.
« Ah, ce petit français !» me disais-je. C'est donc vrai ? Mais quoi ? Paulina et De Griers ? Quelle antithèse !
C'était incroyable. Je me levai hors de moi pour aller chercher M. Ashley, et coûte que coûte, l'obliger à dire ce qu'il savait, car il devait en savoir plus que moi. Et ce M. Ashley, en voilà encore une énigme !
Tout à coup, j'entendis frapper à ma porte.
« Potapitch ! »
« Mon petit père, Alexis Ivanovitch, on vous demande chez la Babouchka. »«
Hein ? Qu'y a-t-il ?
Elle part, mais il y a encore 20 minutes à attendre. »«
On est très inquiet, mon petit père, on ne tient pas en place. »« Vite, vite, c'est vous, mon petit père, qu'on demande. Au nom de Jésus-Christ, hâtez-vous. »
Je descendis vivement. La Babouchka était déjà dans le corridor. Elle avait son portefeuille à la main.
« Alexis Ivanovitch, viens ! Allons !»«
Où, Babouchka ? Je ne resterai pas vivante si je ne regagne pas mon argent. Ne m'interroge pas. Marche. Le jeu ne cesse qu'à minuit, n'est-ce pas ?
J'étais stupéfait. Je réfléchis un instant et me décidai aussitôt.
« Comme vous voudrez, Antonia Vassilievna, mais je n'irai pas. »«
Mais pourquoi cela ? Qu'est-ce qui te prend ? Vous avez donc tous le diable au corps. »«
Comme vous voudrez, mais je ne veux pas avoir de reproches à me faire. Je ne serai ni témoin ni complice. Épargnez-moi, Antonida Vassilievna. Voici vos 50 louis, et adieu. »
Je déposai le rouleau sur une petite table près de laquelle on avait déposé le fauteuil, je saluai et partis.
« Mais quelle bêtise ! » cria la babouchka. « Eh bien, j'irai seule. Viens, Potapitch, en route. »
Je ne pus trouver M. Ashley. Je rentrai chez moi. Vers 1 heure du matin, j'appris de Potapitch que la babouchka avait perdu 10 000 roubles, tout ce que je lui avais changé.
Chapitre 13. Voilà un mois que je n'ai pas touché à ces notes. La catastrophe dont je présentais alors l'approche a été plus prompte encore que je n'avais pensé. Tout cela a été passablement tragique, du moins pour moi. Je ne puis encore comprendre ce qui m'est arrivé. C'est comme un rêve. Ma passion même a passé. Elle était pourtant forte et réelle. Où est-elle maintenant? Me voilà seul, tout seul. L'automne commence, les feuilles jaunissent, j'habite toujours la même petite ville, triste. Oh, qu'elles sont tristes, ces villes allemandes! Au lieu de réfléchir à ce qu'il convient que je fasse, je vis sous l'influence des événements accomplis, prise encore dans le récent tourbillon qui m'a rejeté loin de mon centre naturel. D'ailleurs, peut-être arriverai-je à voir clair dans l'avenir, si je parviens à me rendre compte de ma vie durant tout ce mois passé. La démangeaison d'écrire me reprend. Et pourtant, je prends à la pauvre petite bibliothèque de l'endroit les volumes de Paul de Kock, dans la traduction allemande, que je déteste, mais que je lis. Pourquoi donc ? Est-ce pour conserver le souvenir du cauchemar qui vient de finir que je fuis toute occupation sérieuse ? M'est-il donc si cher ? Eh, certes, dans 40 ans j'y songerai encore. Je reprends donc mes notes. Finissons-en d'abord avec la babouchka. Le lendemain, elle perdit, d'après le compte de Potapitch, 90 000 roubles. Cela ne pouvait manquer d'arriver. Quand un pareil tempérament s'engage dans une telle voie, il n'en peut plus sortir. C'est un traîneau lancé sur une pente de glace. Toujours plus vite, jusqu'à l'abîme. La seule chose qui m'étonna fut que cette vieille femme eût pu rester assise dans son fauteuil pendant 8 heures. Mais Potapitch m'expliqua que plusieurs fois elle réalisa des gains importants. Exaltée alors par une nouvelle espérance, elle ne songeait plus à s'en aller. Du reste, les joueurs savent qu'un homme peut rester 24 heures à la table de jeu sans que les cartes se brouillent devant ses yeux. Cependant, ce même jour, des événements décisifs s'étaient passés à l'hôtel. Le matin déjà, avant 11 heures, le général et de Grillet s'étaient décidés à faire une dernière tentative. Ayant appris que la babouchka ne songeait plus à partir et retournait à la gare, ils vinrent lui parler franchement. Le général tremblait. Il avoua tout, ses dettes, sa passion pour Mademoiselle Blanche. Puis, tout à coup, il prit un ton menaçant, se mit à crier, à frapper du pied. Il lui reprochait d'être la honte de sa famille, d'être la fable de toute la ville, et qu'enfin... « Enfin, vous faites honte à toute la Russie, madame, et la police n'a pas été inventée pour rien. » La babouchka le mit à la porte en le menaçant avec une canne. Le général et de Grillet eurent, cette même matinée-là, plusieurs conciliabules. Ils songèrent sérieusement à employer, en effet, la police, sous prétexte que la babouchka était folle, prodigue, etc. Mais de Grillet haussait les épaules. se moquait du général, qui allait et venait dans son cabinet, la tête perdue. Enfin, le petit Français fit un geste désespéré et s'en alla. On apprit le même soir qu'il avait quitté l'hôtel, après avoir eu avec Mademoiselle Blanche un long entretien. Quant à cette dernière, elle avait pris à l'avance ses mesures. Elle avait donné congé au général en bonne et due forme. Elle ne voulait plus le voir. Le général courut après elle et la retrouva à la gare. Elle s'en allait, bras dessous, avec son prince. Ni elle, ni Madame de Comminges ne le reconnurent. Le petit prince ne le salua pas non plus. Néanmoins, celui-ci ne s'était pas encore prononcé. Mademoiselle Blanche faisait les derniers efforts pour obtenir qu'il prît une décision. Mais, hélas, elle s'était cruellement trompée. Le soir même, elle apprit que le petit prince était nu comme un ver, et qu'il comptait sur elle, comme elle-même avait compté sur lui, pour pouvoir jouer à la roulette. Blanche le chassa de chez elle et s'enferma dans son appartement. Dans la matinée de ce jour mémorable, je cherchais vainement M. Ashley. Il ne déjeuna même pas à l'hôtel. Vers 5 heures, je l'aperçus inopinément à la station du chemin de fer, se dirigeant vers l'hôtel d'Angleterre. Il marchait vite, semblait soucieux. Il me tendit la main cordialement avec son « Ah !» ordinaire et sans s'arrêter. Mais je n'obtins de lui aucun renseignement. Il m'eût été d'ailleurs très pénible de parler avec lui de Paulina, et de son côté, il ne fit aucune allusion à elle. Je lui racontai l'histoire de la babouchka. Il haussa les épaules. « Elle achèvera de se ruiner, » remarquai-je. « Évidemment, » répondit-il. « Si j'ai le temps, j'irai la voir jouer. C'est très curieux. »« Où étiez-vous donc toute la journée ?»«
À Francfort. »«
Pour affaires ?»«
Oui. »
Qu'avais-je encore à lui demander ? Pourtant, je ne le quittais pas, mais... Arrivé à la porte de l'hôtel des Quatre Saisons, il me salua et disparut. En revenant chez moi, je me persuadais qu'une conversation de 2 heures avec l'Anglais ne m'en aurait pas appris davantage, car je n'avais, en somme, rien à lui demander, assurément. Paulina passa la journée à se promener avec la bonne et les enfants dans le parc. Elle évitait le général. D'ailleurs, j'avais déjà remarqué cela. Rien ne pouvait la troubler. Tous les tracas parmi lesquels elle vivait n'avaient pas altéré son calme habituel. Elle répondit à mon salut par un hochement de tête. Je rentrai chez moi, très irrité. Certes, je ne cherchais pas à lui parler, et depuis l'incident Wurmergelm, nous ne nous étions pas revus. Certes, je jouais l'orgueilleux, et plus le temps passait, plus ma colère montait. Qu'elle ne m'aima pas du tout, passe. Mais du moins, elle ne devait pas me fouler ainsi aux pieds et accueillir avec tant de dédain mes protestations de dévouement. Elle sait que je l'aime. Elle m'a permis de lui parler de mon amour. Cela a commencé étrangement, il est vrai. Il y a longtemps de cela, déjà 2 mois, je m'aperçus qu'elle voulait faire de moi son ami, son homme de confiance. Elle essaya. Mais cela réussit mal et n'aboutit qu'à nos singulières relations actuelles. Si mon amour lui déplaît, pourquoi ne pas me défendre de lui en parler? Mais elle me le permet, elle me provoque même à ses entretiens, et ce n'est que pour se moquer de moi. Elle prend plaisir, après m'avoir mis hors de moi, à m'abattre d'un seul coup, avec quelques sarcasmes d'indifférence méprisante. Elle sait pourtant bien que je ne puis pas exister sans elle. Voilà 3 jours passés depuis l'histoire du baron, et je ne puis plus supporter notre séparation. En la rencontrant tout à l'heure dans le parc, le cœur me battait avec une indicible violence. Elle non plus ne peut vivre sans moi. Je lui suis nécessaire, mais serait-ce seulement à titre de bouffon? Elle a un mystère dans sa vie, c'est clair. Sa conversation avec la babouchka m'a douloureusement émue. Je l'ai pourtant 1000 fois suppliée d'être franche avec moi. Elle savait que j'étais prêt à donner ma vie pour elle, mais elle ne me marquait que du mépris. Au lieu de ma vie que je lui offrais, elle n'exigeait de moi que de ridicules incartades, celle avec le baron, par exemple. C'était révoltant. C'est donc ce Français qui résume le monde à ses yeux? Et M. Ashley? Ici, la réponse devenait décidément incompréhensible. En rentrant, dans un transport de rage, je saisis ma plume et j'écrivis ceci. Paulina Alexandrovna, je vois clairement que le dénouement approche. Pour la dernière fois, je vous demande, voulez-vous, oui ou non, ma vie? Si je vous suis utile à n'importe quoi, disposez de moi. J'attends votre réponse. Je ne sortirai pas avant de l'avoir. Écrivez-moi ou appelez-moi. Je cachetai la lettre, je la fis porter par le garçon, avec l'ordre de la remettre en main propre. Je n'attendais pas de réponse, mais 3 minutes après, le garçon vint me dire qu'on lui avait commandé de me saluer. Vers 7 heures, on m'appela chez le général. Il était dans son cabinet, tout prêt pour sortir. Il se tenait au milieu de la chambre, les jambes écartées, la tête penchée, et se parlait à lui-même à haute voix. Dès qu'il m'eut aperçu, il se précipita à ma rencontre avec un tel cri que je reculai machinalement. Mais il saisit mes deux mains et m'entraîna vers le divan où il s'assit. Il me força à m'asseoir dans un fauteuil, en face de lui, sans lâcher mes mains. Ses lèvres tremblaient, ses yeux étaient humides de larmes. Il me dit d'une voix suppliante « Alexis Ivanovitch, sauvez-moi, sauvez-nous !» Longtemps, je fus sans rien comprendre. Lui parlait toujours, répétant sans cesse « De grâce, de grâce !» Enfin, je compris qu'il attendait de moi quelque chose comme un conseil, ou pour mieux dire que, abandonné de tous, inquiet et désolé, il avait pensé à moi et m'avait appelé seulement pour parler, parler, parler. Il était fou. Du moins, il avait momentanément perdu la tête. Il joignait les mains, voulait se jeter à genoux devant moi pour quoi, à votre avis? Pour que j'allasse tout de suite chez Mademoiselle Blanche, la supplier de revenir auprès de lui et de l'épouser. Voyons, général, Mademoiselle Blanche ne se soucie pas de moi, que puis-je pour vous auprès d'elle? Mais rien n'y fit, il ne m'entendait même pas. En pleurant presque, il me conta que Mademoiselle Blanche refusait de l'épouser parce qu'elle était convaincue qu'il n'hériterait pas de la babouchka. Il semblait croire que tout cela était nouveau pour moi. Je fis une allusion à De Griers, mais il me répondit avec un geste désespéré « Parti ! Je lui ai engagé tous mes biens. Cet argent que vous avez apporté, combien reste-t-il ? 700 francs, je crois. C'est tout ce que je possède. » « Et comment réglerez-vous votre note d'hôtel? Et puis, après, que ferez-vous ?» Il me considéra d'un air absorbé. Il ne m'avait pas compris. J'essayai de lui parler de Paulina et des enfants. Il répondit vivement « Oui, oui !» Et aussitôt, il se mit à parler du prince, que Blanche s'en allait avec lui, et qu'alors, « Que vais-je faire, Alexis Ivanovitch ? Je vous jure, par Dieu, dites, n'est-ce pas de l'ingratitude? Mais oui, oui, c'est de l'ingratitude. » Il fondit en larmes. Il n'y avait rien à faire avec lui. Je fis savoir à la bonne dans quel état il était, je fis avertir aussi le garçon afin qu'on le surveillât, et je sortis. Juste en ce moment, Potapitch vint me prévenir que la babouchka me demandait. Il était 8 heures. Elle revenait de la gare où elle avait perdu tout l'argent qu'elle avait apporté de Moscou. Je la trouvai dans son fauteuil, lasse, malade. Marfa lui présentait une tasse de thé qu'elle la forçait presque de boire. Le ton de la pauvre dame était tout à fait changé. « Bonjour, mon petit père, » dit-elle lentement. « Pardonne-moi de t'avoir dérangé encore une fois. Pardonne cela à une vieille femme. » « J'ai perdu là-bas, mon petit père, près de 100 000 roubles. tu avais raison de ne pas vouloir m'accompagner. Je suis maintenant sans un copec. J'ai envoyé chez ton anglais, Ashley. Je lui demande de me prêter 3 000 francs pour 8 jours. Persuade-lui de ne pas me refuser. Je suis encore assez riche. J'ai 3 villages et 2 maisons. Il me reste aussi de l'argent. Je n'ai pas tout pris sur moi. Tiens, le voici justement. On voit bien vite quand un homme sait vivre. » Au premier appel de la vieille dame, M. Ashley s'était donc hâté de se rendre auprès d'elle. Sans trop parler, il lui compta aussitôt 3 000 francs en échange d'un billet que la babouchka signa. Puis il salua et sortit. « Tu peux t'en aller aussi, Alexis Ivanovitch. Il ne me reste qu'une heure, je vais me reposer un peu. Ne sois pas fâché contre moi. Je suis une vieille sotte. Je n'accuserai plus les jeunes gens de légèreté. Et le général? Ce pauvre général. Lui aussi, c'est péché de l'accuser. Mais quant à de l'argent, il n'en aura pas. Il est trop bête. Mais je ne suis pas plus intelligente que lui. Vraiment, Dieu punit les vieux comme les jeunes du péché d'orgueil. Adieu. » Je voulus reconduire la babouchka. Il me semblait que quelque chose de grave allait se passer. Je ne pus rester chez moi. Ma lettre à elle était décisive, mais la catastrophe actuelle était plus décisive encore. Les gens de l'hôtel me confirmèrent le départ de Degrier que m'avait annoncé le général. Si elle ne veut pas de moi comme ami, me disais-je, qu'elle m'agrée au moins pour domestique, je pourrai toujours faire ses commissions. Au bout d'une heure, je retournai donc chez la babouchka et je l'accompagnai jusqu'au train. Je l'installai même dans un wagon. « Merci, mon petit père, pour ton obligeance désintéressée, » me dit-elle. « Répète à Praskovia ce que je lui ai dit hier. Je l'attends à Moscou. » Je repris le chemin de l'hôtel. En passant devant l'appartement du général, je rencontrai la bonne, qui me dit tristement qu'il n'y avait rien de nouveau. J'entrai pourtant. Mais à la porte du cabinet, je m'arrêtai, stupéfait. Mademoiselle Blanche et le général riaient à gorge déployée. À qui des deux rirait le plus fort? La dame Comminges était là, elle aussi. Le général était évidemment fou de joie. Il bredouillait des paroles incohérentes. Je sus par la suite, et de Mademoiselle Blanche elle-même, qu'après avoir chassé le prince, elle avait appris le désespoir du général, et qu'elle était allée un moment chez lui pour le consoler. Mais le pauvre homme ignorait que son sort n'en était pas moins décidé, que, pendant qu'il riait ainsi à se tordre, on faisait les malles de Blanche, et qu'elle devait le lendemain, par le premier train, prendre son vol vers Paris. Après être resté quelques minutes sur le seuil du cabinet, je renonçais à entrer et je m'esquivais sans être vu. Je remontai chez moi. En ouvrant la porte, j'entrevis dans la demi-obscurité de la chambre la silhouette indécise d'une femme assise sur une chaise dans un coin près de la fenêtre. Elle ne se leva pas à mon entrée. Je m'approchai vivement, je regardais. La respiration me manqua. Chapitre 14. Si je suis venue, c'est tout entière. C'est mon habitude, vous en jugerez tout à l'heure. Allumez la bougie. J'allumai la bougie. Elle se leva, s'approcha de la table, posa devant moi une lettre décachetée en me disant « Lisez !»« C'est l'écriture de Degrier ?» m'écriai-je en saisissant le papier. Mes mains tremblaient, les lignes dansaient devant mes yeux. J'ai oublié les termes précis de la lettre, mais en voici le sens. « Mademoiselle, des circonstances malheureuses m'obligent à partir sur le champ. Vous ne serez pas sans avoir remarqué que j'ai expressément évité toute explication avec vous. L'arrivée de la vieille dame et sa folie ont mis fin à toutes mes hésitations. Mes propres affaires compromises m'interdisent de continuer à me bercer d'espérances, qui jusqu'ici ont été ma seule joie. Je regrette le passé, mais j'espère que vous ne trouverez rien dans ma conduite qui ne soit digne d'un galant homme et d'un honnête homme. à peu près ruiné par la débâcle de votre beau-père, je suis obligé de profiter du peu qui me reste. J'ai déjà chargé mes amis de Pétersbourg de vendre tous les biens qu'ils m'avaient engagés. Connaissant pourtant la légèreté d'esprit du général, qui a perdu sa fortune par sa faute, j'ai résolu de lui laisser 50 000 francs et de lui rendre ses engagements, de sorte que vous pouvez maintenant lui reprendre tout ce qu'il vous a fait perdre, en exigeant par voie judiciaire la restitution de vos biens. J'espère, mademoiselle, que le parti que j'ai pris vous sera profitable. J'espère aussi par là avoir rempli les obligations d'un galant homme. Soyez convaincu que votre souvenir est à jamais gravé dans mon cœur.
« Eh bien, c'est clair, » dis-je en m'adressant à Paulina. « Attendiez-vous de lui autre chose ? » ajoutai-je avec indignation.
« Mais je n'attendais rien, » répondit-elle très calme. Mais sa voix tremblait.
« Je suis résolue à tout depuis longtemps. Je le connais. Il a pensé que je chercherais... que j'insisterais... »
Elle s'arrêta sans achever sa phrase, se mordit la lèvre et se tut.
J'avais redoublé de mépris à son égard, attendant ce qu'il ferait. Si le télégramme annonçant l'héritage était venu, je lui aurais jeté à la tête l'argent que lui devait cet idiot, que lui devait mon beau-père, et je l'aurais chassé. Il y a longtemps que je le hais. Oh, ce n'était pas le même homme auparavant, 1000 fois non. Et maintenant, maintenant, avec quel bonheur je lui aurais jeté sur sa vide figure ces 50 000 francs. Je les lui aurais crachés à la face.
Mais ce papier, cet engagement des 50 000 francs rendus, il est chez le général, n'est-ce pas? Prenez-le et rendez-le à De Grillé.
Oh, ce n'est pas cela, ce n'est pas cela.
Oui, c'est vrai, ce n'est pas cela. Et la babouchka? M'écriai-je tout à coup. Paulina me regarda d'un air distrait et impatient.
« Quoi, la babouchka? Je ne suis pas allée chez elle. Et d'ailleurs, je ne veux demander pardon à personne, » ajouta-t-elle avec irritation.
« Mais que faire? Comment pouviez-vous aimer un tel homme? Voulez-vous que je le provoque en duel? Je le tuerai. Où est-il maintenant?
Il est à Francfort pour 3 jours. »
« Un mot de vous, et j'y vais par le premier train, » dis-je avec un stupide enthousiasme. Elle se mit à rire.
« Et, s'il vous plaît, rendez-moi d'abord les 50 000 francs.
Et puis, pourquoi se battrait-il? Quelle sottise!
Mais où prendre ces 50 000 francs ? » répétai-je en grinçant des dents, comme si on pouvait les ramasser par terre.
« Écoutez, et Monsieur Ashley ?»
Ses yeux jetèrent des éclairs.
« Eh bien, est-ce que toi-même tu veux que je te quitte pour cet Anglais ? »
dit-elle avec un regard qui me transperçait et un sourire triste. C'était la première fois qu'elle me disait « toi ». Il semblait que la tête lui tourna. Elle se laissa tomber sur le divan. J'étais comme foudroyée. Je n'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles.
Quoi donc ? Elle m'aimait ! Elle était venue à moi et non pas à Monsieur Ashley.
Elle, seule, une jeune fille, dans ma chambre. Elle s'était délibérément compromise aux yeux de tous. Et moi, j'étais là, devant elle, sans rien comprendre. Une pensée étrange me vint. Paulina, donne-moi seulement 1 heure et je reviendrai. C'est nécessaire, tu verras. Reste ici, attends-moi.
Je m'enfuis sans répondre à la question qu'elle me jeta.
Oui, parfois, une pensée bizarre, impossible, s'enfonce si fortement dans l'esprit qu'on finit par la prendre pour une réalité. Plus encore, cette pensée est fortifiée par le désir, un désir irrésistible et fatal. Quoi qu'il en soit, cette soirée est pour moi inoubliable, un vrai miracle, bien justifié par l'arithmétique, mais un miracle tout de même. Il était déjà 10h15. Je cours à la gare avec le ferme espoir, l'assurance presque de gagner. Jamais je n'avais été autant ni si étrangement ému. Il y avait encore du monde, car c'est l'heure où les vrais joueurs, ceux pour qui il n'y a au monde que la roulette,
commencent leur journée. Je m'assieds à la table même où la babouchka avait d'abord gagné, puis perdu tant d'argent. Juste en face de moi, sur le tapis vert, était écrit le mot « passe ». Je tire de ma poche mes 20 louis et je les jette sur ce mot « passe ». « 22 !» crie le croupier. Je gagnais. Je remets de nouveau le tout, mise et premier gain. « 31 !» Encore gagné. J'avais déjà 80 louis. Je remets le tout sur la douzaine du milieu. Le gain est triple, mais on a 2 chances de perte contre 1. 24. On me donne 3 rouleaux de 50 louis et 10 pièces d'or. J'avais en tout 200 louis. J'étais comme dans une hallucination. Je mets le tout sur la rouge. Et voilà que brusquement, je reviens à moi et suis pris de terreur. Mais ce sentiment s'effaça vite et ne reparut pas. Je comprenais tout ce que je risquais à perdre. Tout. Ma vie. Rouge. Je respirai. Puis des frissons enflammés m'envahirent quand je retirai les billets de banque. J'avais, en tout, 4 000 florins et 80 louis. Je mets 2 000 florins sur la douzaine du milieu et les perds. Mon or est 80 louis sur les mêmes numéros. Perdu encore. La rage me prit. Je saisis les autres 2 000 florins et les mis sur la première douzaine, sans réflexion, sans calcul. Pourtant, je me rappelle que j'eus une sensation qui ne me semble comparable qu'à celle que dut éprouver Madame Blanchard quand elle tomba de son balcon. 4. De nouveau, j'avais 6 000 florins. Je m'estimais déjà certain de la victoire. Je jetai 4 000 florins sur le noir. 9 joueurs m'imitèrent. Les croupiers se regardaient. Tout autour, on causait, dans l'attente. Noir. À partir de ce moment, je ne me souviens d'aucune mise, d'aucun compte. Je me rappelle seulement, comme dans un rêve, que je gagnais 16 000 florins. 3 coups malheureux me firent perdre 12 000 florins. Je mis les 4 derniers 1000 sur le « passe », j'étais devenu insensible. J'attendais et agissais mécaniquement, sans penser. Je gagnais de nouveau et 4 fois de suite. Je me rappelle encore que j'avais devant moi des monceaux d'or et que c'était surtout la douzaine du milieu qui sortait le plus souvent, 3 fois sur 4, puis disparaissait 1 ou 2 fois pour revenir de nouveau 3 ou 4 fois de suite. Cette régularité étonnante procède parfois par série, et c'est ce qui fait perdre la tête au vrai joueur qui joue le crayon à la main. Il pouvait s'être passé 1/2 heure depuis mon arrivée. Tout à coup, les croupiers me firent observer que j'avais gagné 30 000 florins et qu'on allait fermer la roulette jusqu'au lendemain. Je saisis tout mon or, je le mis dans mes poches, pêle-mêle, avec les billets, et courus dans une autre salle, à une autre table de roulette. Toute la foule me suivit. On me donna une place et je me mis de nouveau à ponter au hasard, sans compter. Je ne puis comprendre ce qui me sauva. Parfois, du reste, les numéros dansaient devant mes yeux et je m'attachais à certains de 6 chiffres, mais toujours sans obstination, et je misais inconsciemment. Je devais être très distrait. Je me rappelle que le croupier corrigeait souvent mon jeu. Mes tempes étaient molles, mes mains tremblaient, la chance ne cessait pas. Tout à coup, on se mit à parler de tous côtés et à rire. « Bravo ! Bravo !» Il y en avait qui applaudissaient. Là aussi, j'avais gagné 30 000 florins. Et on fermait la roulette jusqu'au lendemain. « Allez-vous-en !» me disait une voix à droite. C'était un juif de Francfort. Il ne me quittait pas. Il m'aidait parfois à faire mon jeu. « Par Dieu, allez-vous-en !» murmurait une autre voix à gauche. C'était une dame, très modestement et très correctement vêtue, d'une 30aine d'années, un peu fatiguée et d'une pâleur maladive, mais conservant encore les traces d'une beauté merveilleuse. À ce moment, je bourrai mes poches de billets de banque et je ramassai l'or.
J'eus le temps de glisser les deux derniers rouleaux de 50 louis dans la main de la dame pâle, sans que personne s'en aperçût. Ses doigts maigres serrèrent fortement les miens en signe de reconnaissance. Tout cela ne dura qu'un instant. Ayant ramassé le tout, je me dirigeai vivement vers le 34. Là, le public est plus aristocratique. Ce n'est pas une roulette, c'est un jeu de cartes. Les banques répondent pour 100 000 thalers chaque soir. La plus grosse mise est aussi de 4 000 florins. J'ignorais le jeu, sauf ces combinaisons de rouge et de noir auxquelles je m'attachais. Toute la foule qui m'avait suivi m'entourait. Je ne sais si j'eus une seule pensée pour Paulina. Je n'avais que l'instinct de saisir et d'empocher les billets de banque qui s'empilaient devant moi. En effet, on eût dit qu'une force fatale me faisait agir. Cette fois, un fait, d'ailleurs assez fréquent, se produisit. Si la chance s'installe au rouge, il arrive qu'il passe 10 ou 15 fois de suite. 3 jours auparavant, le rouge était sorti 22 fois sans interruption. Or, il va sans dire qu'au bout de 10 coups, personne ne joue plus sur la même couleur. Pourtant, on ne ponte pas davantage sur l'autre couleur, car on se défie des caprices du hasard. Après 16 rouges, le 17e coup doit être noir. Les novices pontent double et triple sur la noire et perdent. La rouge était donc sortie 3 fois de suite. Je résolus de m'attacher à cette couleur. Il y avait de l'orgueil dans mon affaire. Je voulais étonner par mon audace. On criait autour de moi que j'étais fou. Le rouge venait de sortir pour la 14e fois. « Monsieur a déjà gagné 100 000 florins !» fit une voix derrière moi. Je revins brusquement à moi. « Comment ? J'avais gagné en une seule soirée 100 000 florins ? Mais cela me suffisait !» Je me précipitai sur les billets, je les mis en paquet dans mes poches et m'enfuis de la gare. On riait sur mon passage, on se montrait mes poches gonflées, on commentait ma démarche que le poids de l'or rendait inégale. Je portais plus d'un demi-pont. Plusieurs mains étaient tendues vers moi. Je fis des distributions de poignées d'or. 2 juifs m'arrêtèrent à la sortie. « Vous avez du courage. Allez-vous-en, quittez la ville dès demain, ou vous perdrez tout, » me dirent-ils. Je ne leur répondis pas. L'heure était avancée. J'avais encore une demi-verste jusqu'à l'hôtel. Je n'avais jamais eu peur des voleurs, même dans mon enfance, et je n'y pensais pas davantage cette fois. Je ne pensais qu'à mon triomphe. Pourtant, mes sensations étaient mêlées, presque pénibles. C'était un sentiment presque douloureux de victoire. Soudain, le visage de Paulina apparut à mon imagination. Je me souvins que j'allais la revoir, lui raconter, lui montrer. Mais je ne me rappelais plus ni ses récentes paroles, ni pourquoi j'étais allée à la gare, ni rien, enfin, de tout ce passé devenu pour moi si vieux en si peu de temps. Je ne devais plus m'en souvenir désormais, en effet, car voilà qu'une nouvelle vie commençait pour moi. Presque au bout de l'allée, je fus pris subitement de terreur. Et si on m'assassinait? Si on me dévalisait? Ma terreur redoublait à chaque pas, je courais presque. Tout à coup, notre hôtel m'apparut, étincelant de toutes ses lumières. Grâce à Dieu, me voici arrivé. Je gravis vivement mes 3 étages et j'ouvris la porte. Paulina était toujours là, sur le divan, les mains croisées sur la poitrine. Elle me regarda avec étonnement, et certes, je dus lui paraître étrange. Je mis devant elle et posai sur la table tout mon argent.